Billets d'Europe, animé par Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Europe Direct Limousin. Daniel, dans une chronique précédente, vous nous avez décrit les spécificités du Parlement européen, voix des citoyens de l'Union européenne. Aujourd'hui, nous nous intéressons à ses pouvoirs. Alors, le Parlement européen est-il un acteur majeur de l'Union européenne ?
Alors, le Parlement européen est une institution communautaire originelle. En 1952, voulu par les fondateurs, notamment Jean Monnet, il est l'Assemblée commune de la CECA, Communauté européenne du charbon et de l'acier, et comporte 78 membres. En 1957, dorénavant instance parlementaire des trois communautés, Communauté économique européenne, Communauté européenne du charbon et de l'acier, Euratom, l'Assemblée commune devient, dans le traité de Rome, donc l'Assemblée unique, avec 142 délégués. Mais dès sa première réunion, en mars 1958, l'Assemblée adopte le nom d'Assemblée parlementaire européenne et bientôt, en 1962, elle s'autodésigne Parlement européen. Ce titre ne sera validé que 25 ans plus tard dans l'acte unique en 1986. Durant le quart de siècle, des transformations majeures surviennent. Liées aux élargissements successifs, de 6 à 12 pays, une croissance numérique des effectifs qui passe de 142 à 517. Surtout, avec l'élection du Parlement au suffrage universel direct en 79, les délégués se transforment en représentants, donc en eurodéputés, alors qu'ils étaient jusque-là des simples représentants des États.
Alors, eurodéputé, cela signifie-t-il que le Parlement européen s'autonomise ?
C'est en effet ce qui se produit avec la mutation d'une instance consultative à un organe décisionnel par accroissement progressif de ses pouvoirs. En 1957, l'Assemblée parlementaire n'exerçait que des pouvoirs limités. Un rôle consultatif sous forme d'avis sur les textes et décisions de la Commission et du Conseil dans le cadre d'une procédure non contraignante. Une participation limitée à l'élaboration du budget, aucune intervention dans la désignation de la Commission, mais la possibilité théorique de renverser cette dernière par un vote de censure. Avec l'instauration du suffrage universel direct en 1979, la faiblesse des pouvoirs du Parlement fait débat. Bien sûr, au sein de l'Assemblée, qui décide en 1981 de conférer une investiture formelle à la Commission, en se prononçant, lui, le Parlement, sur son programme. Débat aussi au sein du Conseil européen des dirigeants, donc tenant pour un accroissement des pouvoirs, ce sont plutôt les Allemands, avec le chancelier Kohl. Quand d'autres se montrent plutôt réticents, ce sont les Français, Mitterrand, Chirac. Mais la pan-européenne et l'europessimisme auront raison de la timidité française.
Quelles sont les étapes du renforcement du rôle du Parlement européen ?
Alors, les étapes essentielles ont lieu à la fin des années 1980 et dans les années 1990. En 1986, l'acte unique, outre l'officialisation du terme « Parlement européen », instaure les procédures législatives de coopération et d'avis conforme. Alors, la procédure de coopération permet au Parlement de rejeter à la majorité absolue de ses membres et en deuxième lecture la décision du Conseil et d'amender de façon limitée les propositions de la Commission. La procédure d'avis conforme, on dit aussi d'approbation, si elle ne permet pas au Parlement d'amender un texte, lui donne un droit de veto dans des domaines tels que l'investiture de la Commission, l'adhésion à l'Union, la signature d'accords internationaux d'association ou la coopération judiciaire en matière pénale. En 1992, le traité de Maastricht institue la codécision qui prévoit l'adoption des actes législatifs à égalité avec le Conseil. Le Conseil, ce sont les ministres, hein, bien sûr. Et ce, dans plus d'une dizaine de domaines, comme la liberté de circulation des travailleurs, l'éducation et la formation professionnelle, la protection des consommateurs, etc. Dans les années suivantes, avec les traités d'Amsterdam, de Nice, la codécision ne cesse de s'étendre à de nouveaux domaines, au point qu'au terme de codécision, le traité de Lisbonne en 2007 substitue celui de procédure législative ordinaire.
Alors, quelles sont les fonctions du Parlement européen aujourd'hui ?
Alors, le Parlement européen exerce trois fonctions. Il participe avec le Conseil au processus législatif d'adoption des actes juridiques de l'Union, les règlements, les directives, les décisions. Aujourd'hui, 90% des propositions législatives sont adoptées en procédure de codécision, dans près de 85 domaines, à l'exception cependant des affaires étrangères, de la défense, de la fiscalité. La très grande majorité des actes sont adoptés en première ou deuxième lecture, la conciliation étant devenue exceptionnelle. Deuxième fonction, le Parlement européen détient avec le Conseil l'autorité budgétaire. Si dans les années 1970, il acquiert le droit de rejeter le budget, il faut attendre le traité de Lisbonne en 2007 pour qu'il soit présent dans le processus budgétaire dès le stade préparatoire. Avec le Conseil, il détermine les orientations générales, approuve la proposition de la Commission, rend le budget annuel exécutoire, contrôle la gestion des fonds européens et accorde ou pas la décharge budgétaire, quitus, une sorte de quitus. Enfin, il doit approuver, accepter ou refuser, sans possibilité d'amender, le cadre financier pluriannuel de 7 ans. Troisième et dernière fonction, le Parlement exerce un contrôle démocratique sur les autres institutions, principalement sur la Commission européenne. Il intervient dans la définition de sa composition. Depuis le traité de Maastricht, il est consulté pour le choix de la présidence et approuve la composition finale de la Commission. Depuis le traité d'Amsterdam, la nomination à la présidence de la Commission est soumise à son approbation préalable qui survient avant la désignation des autres membres de la Commission. Enfin, comme le stipule le traité de Lisbonne, le candidat ou candidate à la présidence de la Commission est choisi par le Conseil européen en tenant compte des résultats des élections européennes et il est élu par le Parlement européen. Le Parlement européen contrôle aussi l'activité de la Commission par le biais des questions parlementaires, qu'elles soient écrites ou orales, notamment à la suite du discours annuel sur l'état de l'Union et par le biais évidemment des commissions d'enquête. Enfin, le Parlement peut renverser la Commission au moyen d'une motion de censure votée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à la majorité des membres composant l'Assemblée. Alors on le voit, Yann, ses pouvoirs en témoignent, le Parlement européen est un vrai Parlement. Pourtant, jusque-là, cela n'a pas suffi pour réduire la distance avec nombre de citoyens de l'Union européenne.